Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 56, le style critique.
André Tuboeuf, vous nous avez dit avoir inventé un genre, et il est vrai que...
Pas breveté.
Inventé un genre, et il est vrai que, au-delà du fait de ce que vous avez décrit, les circonstances de votre passage de l'oral à l'écrit, et puis l'invention, effectivement, de cette écriture sur la musique, sur la base de ressources plus intérieures qu'érudites... Il y a quand même quelque chose qui me frappe. Vous avez, je me rappelle d'un papier dans Diapason, il y a quelques années déjà, qui interrogeait un certain nombre des journalistes du magazine sur leur relation avec l'exercice de l'écriture de critique et du journalisme musical. Et la question qui vous était posée, c'était « André Tuboeuf, votre style est immédiatement reconnaissable, comment faites-vous » Et vous aviez répondu par une pirouette « Le style, quel style? Il y a bien d'autres occasions de faire du style que lorsque l'on écrit sur la musique. » Et pourtant, paradoxalement, votre style est effectivement immédiatement reconnaissable. Vous avez inventé un genre, mais aussi forgé un style. Je ne sais pas si vous en êtes conscient ou pas conscient, mais en tout cas, vous devez savoir, on vous l'a déjà sans doute beaucoup dit. Qu'est-ce que ce style? Est-ce que déjà ce style, selon vous, existe, ou est-ce qu'il est une transposition de l'oral? Et surtout, quelle est la validité ou la légitimité, c'est plutôt cette question qui m'intéresse, la validité ou la légitimité d'une écriture sur la musique, dont tant de gens, à travers les âges, ont dit qu'elle n'avait en fait aucune validité, puisque la musique est faite pour être écoutée, que si on veut avoir une relation directe avec la musique, il suffit d'en jouer ou de l'écouter. Bref, quelle est la place que vous assignez au langage, à l'écriture, à l'expression dans cette relation avec la musique, sachant que pendant longtemps, vous vous en êtes passé du langage, que vous avez été simplement auditeur avant d'exprimer?
Ben, écoutez, c'est peut-être précisément la raison qui fait que j'ai été obligé d'aller chercher un langage un peu différent de celui que les autres utilisent. La raison en est peut-être tout simplement que j'avais pris le temps de me forger, de me former, de laisser mûrir en moi-même un langage qui est simplement plus adulte, plus chargé de mémoire. Enfin, je voudrais quand même faire remarquer que parmi les gens qui ont écrit sur la musique dans le monde très modeste des journalistes et des critiques, hein, ce qui est à peine un métier, il y en est peu qui aient attendu d'avoir 45 ans, 45 ans largement passés, pour écrire sur un disque de Glenn Gould ou de Maria Callas. Alors déjà, d'une part, ce dans quoi j'ai commencé, c'est l'interprétation, et c'est pourquoi l'autre jour je faisais une telle différence entre le fait d'écrire sur les œuvres même, occasion qui m'a été fournie par les programmes que j'ai pu rédiger pour André Furneaux, et écrire sur les interprétations, parce que écrire sur les œuvres, je ne faisais pas œuvre de critique, je faisais à la rigueur œuvre de commentateur ou de, comment dire, développeur, extrapolateur, explorateur de terres inconnues qui se situent au-delà des derniers récifs de l'Opus 111. Mais il y a aussi le fait qu'on écrit simplement sur des interprétations. Et alors là, je pense que le fait que j'ai commencé très tard, et surtout, enfin, que derrière ce commencement très tardif, il y a eu, d'une part, eh bien, la pratique constante de l'oral, et de l'oral qui improvise, et qui trouve immédiatement la façon dont il aura à se formuler, ce qui est, je veux dire, obligatoire. Quand on parle à des élèves, et qu'on parle sans notes, et qu'on tâche de faire sortir avec un petit peu d'ordre et de cohérence, ce que l'on a en soi et qui est informulé mais implicite, dans la dimension de l'exprimer et de l'expliciter. Et d'autre part, dans ces 15-20 années de Strasbourg que j'avais déjà derrière moi, il y avait eu cette longue étude, qui est d'abord une pratique de l'écoute, plusieurs heures dans mes temps de loisir, chaque jour, les œuvres qui me paraissaient essentielles, dans des interprétations qui pouvaient être différentes, ce que le disque permet, bien entendu, et le fait qu'ensuite, si j'ose le dire, je ne me suis pratiquement jamais exprimé ensuite, en tant que critique, que sur des œuvres que je connaissais par cœur. Non pas connaissais par cœur parce que je les avais moi-même jouées, ou dirigées, ou apprises sur le papier, comme le font beaucoup de critiques qui ont fait un petit stage dans les universités et qui sont agrégés ou agrégatifs de ceci ou de cela en enseignement musical. Mais la pratique qui est la pratique de l'écoute. La pratique de l'écoute est la pratique de l'écoute comparative. Et la pratique d'une écoute comparative qui ne sert à rien. Bon, il est évident que si on demandait à quelqu'un qui postule pour un emploi de critique, si on lui posait la question « Combien d'années avez-vous passé ?» à essayer d'entendre correctement, et à plusieurs reprises et avec des variantes, la chose dont vous allez nous parler et sur laquelle nous allons vous faire faire un article test, eh bien, il y en a beaucoup qui se déroberaient. Mais comme vous le savez, on ne demande pas une chose pareille, c'est-à-dire que, je le dis tout simplement, mais je prends le mot dans le sens platonicien ou socratique, qu'on ne recherche pas assez et qu'on ne met pas suffisamment derrière les choses auxquelles on veut donner un sens clair. Il y a une question de compétence. Quel est le savoir que vous avez, qu'il y a en vous, et qui vous rend capable de vous exprimer sur ceci et sur cela? Et quelle est cette compétence, cet acquis, cette praxis qu'il y a en vous, et que chez votre voisin, qui est votre voisin de concert, il n'y a pas. Autrefois, c'est une compétence qui en vaut une autre, mais enfin, un critique musical était censé juger des œuvres nouvelles. Et il paraissait beaucoup d'œuvres nouvelles. Au rythme auquel paraissent les œuvres nouvelles auxquelles les critiques doivent assister, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussiraient à se former aujourd'hui, vivre un état de critique. Simplement, il n'y aurait pas de matière pour le faire. Donc, on écoute des interprétations et puis on en juge. Et parce qu'on aime Maria Callas et qu'on n'aime pas Tebaldi, on dit « Ah, ça, c'est très bien », c'est-à-dire c'est le goût qui parle. Et pourquoi pas, le goût est un excellent. Le goût est un excellent critère, à condition que l'on sache argumenter pour le lecteur ou expliquer pour le lecteur pourquoi ce goût et quelle résonance, enfin le timbre particulier de Callas peut susciter en vous, que le timbre de Tebaldi ou la façon plus lisse, plus crémeuse de chanter de Tebaldi n'évoque pas en vous. Du moment que vous trouvez le vocabulaire et le langage de vos propres impressions, vous avez acquis cette compétence. Toute la question est de savoir si, de but en blanc, et en sortant d'un concert, vous pouvez exercer ça comme étant une compétence. Clairement, vous ne le pouvez pas. Mais clairement aussi, cela n'est plus demandé nulle part. Alors, si on me dit que moi j'ai un style qui est reconnaissable, c'est tout simplement parce que j'ai un style qui est à moi, tout simplement. Et j'ai un style qui est à moi parce que je suis quelqu'un qui débarque quand il a 45 ans dans un endroit où tout le monde en a 25, ou bien où les gens en ont déjà 70 mais écrivent déjà depuis 50 ans le même genre de choses, comme c'était le cas lorsque moi j'ai débuté dans les magazines musicaux. Alors évidemment, j'étais un paysan du Danube d'une certaine manière, mais enfin un outsider complet au sens où j'avais une pensée à moi, ce qui est la moindre des choses quand on exerce le métier que j'exerce et que j'exerçais déjà en un sens au plus haut niveau où je pouvais l'exercer et déjà depuis 20 ans, je veux dire, avec l'acquis intellectuel et culturel que je peux avoir derrière moi. Et l'apprentissage que j'avais fait à Strasbourg de la musique d'opéra, en voyant 8 fois de suite les maîtres chanteurs, enfin de façon à commencer déjà à être un petit peu débrouillé dedans, on peut bien le dire, ou bien avoir entendu voilà, les 5 ou 6 versions différentes de la Hammerklavier que je pouvais me mettre dans l'oreille, en tâchant de me dire à moi-même, enfin, de m'exprimer à moi-même, de trouver pour moi-même les mots correspondants aux sensations et aux jugements différents que pendant l'acte même de jouer pouvait m'inspirer un Schnabel, un Kempf, un Backhaus, un Serkin, voilà.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.